Vous écoutez France Culture.
Une vie, une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Cléopâtre, 69, 30, avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, Une vie, une œuvre vous invite à redécouvrir la femme de pouvoir la plus célèbre de l'histoire, Cléopâtre. Ou plutôt, Cléopâtre VII Philopator, une jeune femme rebelle à la beauté toute légendaire, une bâtarde macédonienne devenue pharaone. Plongée dans les eaux du delta infestées de crocodiles et dans une histoire entremêlée de fiction, autrement dit, de fantasmes. À la rencontre de la dernière des Ptolémées, déesse reine et femme serpent, inimitable maîtresse de Jules César et épouse de Marc-Antoine, qui n'a jamais cessé de fasciner les artistes, de Shakespeare au réalisateur star d'Hollywood. Cléopâtre, la déesse mortelle du Nil, un documentaire de Martin Kénéen et Doria Zénine.
Le nez de Cléopâtre a beaucoup fait rêver. Pascal pense que la face du monde aurait été changée s'il avait été plus court. Autrement dit, ne pouvant pas séduire à ce point Antoine. L'autre amant le reprend ainsi. Si la morale de Cléopâtre eût été moins courte, la face du monde aurait changé, son nez n'en serait pas devenu plus long.
Cléopâtre, la déesse mortelle du Nil.
Voilà, sans doute un des plus anciens portraits de Cléopâtre frappé sur une monnaie. Et tout de suite, il faut dégonfler une légende. Cléopâtre, on la représente habituellement comme une très belle femme, pleine de sensualité, très, très orientale. Or, Cléopâtre, manifestement, n'était pas une femme séduisante et, de ce point de vue, les monnaies tendent à confirmer cet avis.
Julien Olivier, responsable des monnaies grecques au département des médailles de la Bibliothèque nationale de France.
Donc voici une monnaie de bronze de Cléopâtre, frappée à Alexandrie, en sa capitale, en Égypte. On retrouve donc un buste de la reine. Elle porte un diadème, c'est un bandeau de tissu qui signale sa condition royale. Ses cheveux sont relevés en chignon et on remarque que ses traits sont relativement disgracieux. Elle a un menton très avancé, elle a un nez, on va dire, légèrement crochu. Et voilà, un portrait d'une femme qui ne semble pas d'une grande beauté ou d'une particulière beauté comme on aurait pu se l'imaginer.
Alors, dans la vie d'Antoine, Plutarque évoque sa beauté. Et alors, il nous dit que c'est une femme perverse, une séductrice. Donc, elle n'est pas belle à proprement parler, mais elle est irrésistible par son charme. Elle est séduisante par sa conversation pleine de grâce.
Christian-Georges Schwenzel, historien.
Et alors, on peut lire un passage, si vous voulez, de la vie d'Antoine de Plutarque. Sa beauté en elle-même n'était pas incomparable, mais sa fréquentation la rendait absolument irrésistible. Son visage était très séduisant et sa conversation pleine de grâce. Elle laissait comme une flèche plantée dans l'esprit de ceux qui la côtoyaient. Sa voix était d'une extrême douceur. Ses lèvres, qu'elle maniait avec une grande facilité comme un instrument à plusieurs cordes, prononçaient tout aussi bien plusieurs langues, de sorte qu'il était peu de peuples auxquels elle parlait par interprète. Elle répondait dans leur propre langue aux Éthiopiens, aux Troglodytes, aux Hébreux, aux Arabes, aux Syriens, aux Mèdes et aux Parthes. Elle savait encore, dit-on, plusieurs autres langues, tandis que les rois d'Égypte, ses prédécesseurs, n'avaient réussi qu'à grande peine à apprendre l'égyptien. Voilà. Alors, c'est un passage caractéristique de Plutarque, faussement positif, Alors, elle n'est pas belle, elle est charmante, mais charmante, ça n'est pas positif pour Plutarque. Ça n'est pas une femme normale, elle n'est pas à la place que devrait avoir une femme de son point de vue de Romain. Et alors, même le fait de dire qu'elle est polyglotte, alors c'est probable, il est possible que Cléopâtre ait été polyglotte, mais dans son dessin littéraire à lui, il s'agit d'en faire une courtisane qui parle toutes les langues et qui donc est susceptible de charmer tout le monde. Hein. C'est une extraordinaire courtisane, extrêmement dangereuse, puisqu'elle manie toutes les langues, elle est capable de séduire tout le monde.
Le serpent du Nil, on l'appelle le serpent du Nil. Hein. Elle a séduit un Romain, la mollesse des Orientaux, tout ça. C'est le sentiment anti-oriental romain hein, qui a toujours existé, qui va se développer.
Claude Aziza, historien.
Les Romains sont très ambigus vis-à-vis de l'Orient. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la peur panique des Romains vis-à-vis des femmes. Que ce soit, qu'elles soient orientales ou non. Alors, quand elles sont orientales, c'est pire. N'oublions pas que, la première femme qui a failli faire échouer la naissance de Rome, c'est Didon. Une orientale, entre guillemets, mais enfin, c'est une phénicienne, si vous voulez. Ça, c'est déjà une première chose. On en aura une autre d'orientale qui va quasiment, peut-être, empêcher que l'Empire soit tel. Ça, c'est Bérénice. Et là, Titus partira à temps. On aura une nouvelle Cléopâtre, d'ailleurs, au IIIe siècle, Zénobie, reine de Palmyre, qui te prétend la Cléopâtre et qui va mettre en échec les armées romaines. Bon. Alors, pour revenir aux femmes, les Romains ont très peur des femmes. Et il y a notamment, à un moment donné, on va mesurer le poids de leurs bijoux. Les femmes n'ont pas le droit de porter trop de bijoux. Et puis, il y a le fameux scandale, c'est à l'époque de Cléopâtre, ou presque, ce qu'on appelle le scandale des bacchanales, où on a un jeune débauché qui s'appelle Claudius, qui va se rendre déguisé en femme dans une association féminine, enfin, qui célèbre des mystères, parce qu'il est amoureux de la femme de César. Il est reconnu, donc il se sauve. C'est marrant, tout ça. Et donc, on a très peur des femmes. On a surtout peur du débordement féminin.
On va aller dans le rayon un peu adulte de votre collection.
Il n'y a pas de rayon adulte ici. Il y a des rayons... Alors, Cléopâtre, on regarde, si vous voulez. C'est Les Nuits Chaudes de Cléopâtre. C'est un film nullissime. D'un nommé César Todd, que je ne connais pas, mais le prénom paraît prometteur, et interdit au moins de 18 ans, donc ça semble bien indiquer que c'est un porno hard et non pas soft. Mais en fait, la couverture est mensongère, il est simplement soft. Mais pour le latiniste que je suis, ça m'intéresse parce que Cicéron fait une petite apparition. Alors on continue nos Cléopâtres. Là, on a le... Alors ça, c'est plus amusant parce que c'est le fameux 2 ans le quart avant Jésus-Christ, hein, avec Mimi Coutelier dans le rôle de Cléopâtre et surtout, évidemment, Michel Serrault qui joue une espèce de grande folle, c'est ça, et Coluche, bien sûr, et moi j'aime beaucoup. Et alors, on a surtout Private Cléopâtre. Alors la série Private... C'est une série toute particulière qui comble les creux, si j'ose dire, révérence parlée, des grands films en les transformant en films porno. Alors on a Private Gladiator et Private Cléopâtre, et donc c'est le porno dans toute sa splendeur d'ailleurs, et en même temps sa monotonie, il faut bien dire, parce que les gens font toujours la même chose. Donc ça c'est le porno.
Que vous appelez Philippe Solers, son art sexuel immémorial. Ça pouvait s'incarner dans quelle caresse, dans quelle pratique.
Ce que j'aurais à dire, c'est que ça n'a rien à voir avec la pornographie telle qu'elle est filmée. Non, je serais très pudique, parce que dès que vous ne l'êtes plus, vous loupez le coup. Alors, ce que je veux suggérer, c'est que ça vient de très loin. Ça passe par des mystères, entre guillemets, voilà. Les mystères d'Isis. Et oui, c'est la déesse qui est, bon, alors en grec, vous avez Aphrodite, vous pouvez... Vénus ne va pas parce que c'est pas Aphrodite. Un aphrodisiaque, c'est un aphrodisiaque. Mais l'aphrodisiaque n'est pas du Viagra, vous comprenez ? Il faut que tous les sens soient subjugués. Eh bien, on s'en va. Alors, il faut l'audition, la voix, hein, et il faut que les yeux soient rassasiés, quand même. Hein, donc... Vous voyez comment elle apparaît sur le Nil, elle fait deviner ses formes, voilà. Vous avez évidemment les parfums, ah, le parfum, vous voyez, ils sont là. Vous avez le toucher, bien entendu. Enfin, écoutez, voilà, tous les sens. Il y a un mot d'un splendide écrivain qui s'appelle Lichtenberg, qui avait beaucoup d'esprit. C'est une devinette. Il dit, il y a très peu de choses que l'on peut goûter avec les cinq sens à la fois. Alors, il est bien évident que c'est faire l'amour, non? Enfin, c'est pour, au cas où cette expression aurait un sens, et ne serait pas les tristes coïts de cette France aplatie.
Je suis pas né à cette époque, donc je peux pas vraiment savoir, mais... Je pense qu'il y avait quelque chose qui pouvait aussi, pour nous aujourd'hui, qui devait être assez brut à l'époque. Je suis sûr que les banquets, les orgies pouvaient être aussi assez perturbants pour nous aujourd'hui. Je sais pas exactement, mais je pense qu'il devait y avoir quelque chose d'assez primaire, enfin primal. Ce qu'on ressent comme ça autour de la mythologie de Cléopâtre, c'est que je pense pas qu'il y avait beaucoup de pudeur, mais peut-être je me trompe. Hein.
Nasser Martin Gousset, danseur et chorégraphe.
Mais on sent que les corps étaient assez libéré sur ce plan-là, en tout cas sur le plan sensuel. On a des documents pour comprendre, mais je crois que chaque époque peut être troublante à ce niveau-là sur comment le corps peut se débrider. Si on pouvait remonter dans le temps, je pense qu'on serait assez troublé. En fait, là, c'était pour travailler sur... J'étais beaucoup travaillé sur cette espèce de bas-relief. L'espace, c'est pas le même quand on regarde ces hiéroglyphes ou ces peintures égyptiennes. Les choses sont très plates, en fait. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans un solo, beaucoup de profil. Bon, c'est un peu un cliché pour parler de l'Égypte, mais c'est assez réel dans... Enfin, physiquement, dans les corps, comment les corps s'inscrivent sur les surfaces. Et je trouvais que ça collait très bien avec la thématique de, finalement, l'Antiquité. Et puis, bien sûr, de Cléopâtre.
Premier étage. Antiquité grecque et romaine, antiquité égyptienne.
On se dirige vers l'entrée du musée Charles X, c'est-à-dire cette enfilade de quatre salles qui ont été inaugurées en 1827 pour créer le premier musée égyptien à l'intérieur du musée du Louvre.
Vincent Rondeau, conservateur en chef du département des antiquités égyptiennes du Louvre.
C'est Champollion lui-même qui avait été chargé de créer ce musée. Il en a été le premier conservateur.
Et alors parmi tous les objets qui sont exposés dans des vitrines, vous avez pu identifier un objet qui parle précisément de Cléopâtre VII.
Oui, alors cet objet, il est connu, je veux dire, célèbre dans nos collections. Il a été étudié maintes fois. C'est une stèle d'assez petite taille, de facture un peu médiocre, si l'on peut dire. Elle est pas grande, elle fait une cinquantaine de centimètres de haut. Et très classiquement, je dirais, pour ce qui est des stèles égyptiennes, Elle est partagée en deux moitiés. Le cintre, c'est-à-dire la partie courbe de son sommet, contient dans son orbe un disque solaire avec ailé, avec deux ailes. C'est le soleil planant de tous les firmaments des stèles égyptiennes, avec deux cobras qui s'enroulent autour du disque solaire et qui sont là à la fois pour le protéger et protéger la création. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle la scène de la stèle. Classiquement, la partie inférieure, la moitié inférieure, étant réservée au texte. Et là, on va voir qu'elle devient vite intrigante, au sens où à droite, on a le souverain, le pharaon, avec son pagne de vantaux empesé qui pointe vers l'avant, qui offre deux vases et qui est coiffé du pchent, la couronne de haute et basse Égypte, que les Égyptiens appelaient le pchent. Il a devant lui une table d'offrande avec des pains, visiblement, et puis un bouquet de fleurs posé dessus. Et l'offrande qu'il présente de ces deux vases, et les offrandes présentées sur la table également, s'adresse à une déesse qu'on reconnaît tout de suite comme étant Isis. Puisqu'elle est représentée avec un petit enfant assis sur ses genoux à qui elle donne le sein. C'est une forme particulière d'Isis. On dit dans notre jargon Isis lactans, allaitant, avec le mot latin. Et cela nous est confirmé qu'il s'agit bien d'une forme particulière d'Isis par le texte qui est en dessous. Sauf que le texte, là, c'est la première particularité qui va nous amener vers notre sujet. Il est écrit en grec et non pas en hiéroglyphe. Et donc là, le texte nous donne tous les renseignements qu'on a envie d'avoir. Il est intact sur cette stèle, et je vais vous en lire la traduction. « Pour la reine Cléopâtre, la déesse qui aime son père, le siège de l'association d'Isis Sononais, dont est président Onophris, administrateur, l'an 1, le premier épiphile. » Voilà ce que dit le texte grec. C'est-à-dire qu'il mentionne au nom de quel souverain régnant la stèle a été inscrite, Cléopâtre. La déesse qui aime son père, il donne son épithète, Philopator, ce qui va permettre, entre les sept Cléopâtres, de décider de laquelle, à laquelle nous avons affaire. Et enfin, et ça c'est la chose la plus précieuse, peut-être, l'an 1, le premier épiphile. Donc on a le nom du souverain et son année de règne, y compris le mois, le premier épiphile, c'est-à-dire le premier jour du mois d'épiphile.
Donc on est au mois de juillet, 51 avant Jésus-Christ.
C'est ça, le 2. Elle a 17 ans quand elle monte sur le trône. Là, cette stèle qui nous donne la date la plus haute connue du règne de Cléopâtre, il faut comprendre qu'elle a 17 ans là.
Il semble que quelqu'un m'apporte un présent de la part de la reine Cléopâtre. Apparemment un marchand de tapis. Qu'on me l'amène, Flavius. Ce tapis semble inoffensif.
Non, César.
Mais tu peux me prêter ton glaive, Rufio. Je peux avoir à le couper. Je trouve que l'on peut mieux juger les qualités d'une marchandise quand on examine le revers d'abord.
Salut, ô Cléopâtre. Divine Parorus et Ra, bien-aimée de la lune et du soleil, fille d'Isis, souveraine de la haute et basse Égypte, reine.
Oh.
Jules César est à Alexandrie, il a pris possession du palais, on est en pleine guerre civile égyptienne entre Cléopâtre et son frère Ptolémée XIII. Il a convoqué les souverains au palais en tant que maître romain, c'est lui qui incarne l'autorité romaine, et les souverains ne sont que des souverains clients, donc c'est normal, il les convoque. Alors, pas de problème pour Ptolémée qui est à Alexandrie, mais il faut convoquer Cléopâtre qui, elle, a pris la fuite à la frontière orientale de l'Égypte.
Christian Georges Schwenzel.
Donc il envoya secrètement un message à Cléopâtre pour lui demander de revenir à Alexandrie. Cléopâtre prend avec elle un seul de ses amis, Apollodore le Sicilien. Elle monte dans un petit bateau et elle arrive de nuit devant le palais. Comme il n'y avait pas moyen qu'elle y entre sans être reconnue, elle s'enveloppe dans un sac qu'Apollodore lie avec une courroie et qu'il fait entrer chez César par la porte même du palais. Cette ruse de Cléopâtre fut, dit-on, le premier appât qui charma César. Émerveillé de cet esprit si inventif, puis ensuite subjugué par sa douceur et le charme de sa voix, il la réconcilia avec son frère, à condition qu'elle partage la puissance royale, et un grand festin suivit cette réconciliation. Alors, évidemment, ça fait très romanesque, cette arrivée dans une sorte de sac, une sorte de paquet cadeau, elle s'offre elle-même à Jules César, mais en même temps, si vraiment on veut être sceptique, il faut proposer une autre solution, hein. Enfin, c'est la guerre civile entre elle et son frère, donc elle ne peut pas arriver à découvert. Elle se ferait tuer aussitôt par les hommes de son frère. Si elle arrive avec son armée, elle déclenche une véritable guerre dans la ville. Et donc, si l'on prend en compte le contexte, on se dit que son arrivée finalement incognito était la seule solution, enfin la meilleure solution. Alors, c'est déformé par Plutarque, parce que le but de Plutarque, c'est de nous présenter Cléopâtre comme une prostituée, une charmeuse, une séductrice, et on l'a bien compris dans la fin du passage, hein. L'auteur parle de ruse de Cléopâtre, c'est vrai que c'est une ruse, mais il parle ensuite d'appât, de douceur, de charme de sa voix. Il s'agit d'en faire une espèce de sirène qui va séduire César.
Qu'en a-t-il dit à un moment donné, je sais que Cléopâtre a la réputation d'être une femme lascive et d'être éventuellement la propre. Je sais pas quoi, la prostituée de l'Antiquité. Eh bien non, moi je n'en ferai pas une femme aussi lascive. Je veux en faire une jeune femme ambitieuse et consciente de son pouvoir et qui utilise sa beauté pour asseoir le pouvoir de l'Égypte.
Brigitte Jacques Wagemann, metteur en scène.
Il n'en fait pas un personnage rusé, pénible, comme ça. Il en fait une toute jeune fille. On peut le lire un peu. Donc, je vais faire à la fois sa suivante, Charmion, et Cléopâtre. Il vient, ma Charmion, jusque dans nos murailles, chercher auprès de moi le prix de ses batailles, m'offrir toute sa gloire, et soumettre à mes lois ce cœur et cette main qui commandent au roi, et ma rigueur mêlée aux faveurs de la guerre ferait un malheureux du maître de la terre. J'oserais bien jurer que vos charmants appâts se vantent d'un pouvoir dont ils n'useront pas, et que le grand César n'a rien qui l'importune si vos seules rigueurs ont droit sur sa fortune. Mais quelle est votre attente? Et que prétendez-vous, puisque d'une autre femme il est déjà l'époux? Le divorce aujourd'hui, si commun aux Romains, peut rendre en ma faveur tous ces obstacles vains. César en sait l'usage et la cérémonie. Un divorce chez lui fit place à Calphurnie. Par cette même voie, il pourra vous quitter. Peut-être mon bonheur saura mieux l'arrêter. Et si jamais le ciel favorisait ma couche de quelque rejeton de cette illustre souche, cette heureuse union de mon sang et du sien unirait à jamais son destin et le mien. Comme il n'a plus d'enfants, ses chers et nouveaux gages me seraient de son cœur de précieux otages. Mais laissons au hasard ce qui peut arriver, achevons cet hymen, s'il se peut achever, ne dura-t-il qu'un jour ma gloire et 100 secondes d'être du moins un jour la maîtresse du monde? On entend, non, ce côté comme ça, ce rêve d'une jeune fille, d'une petite jeune fille de, voilà, égyptienne, dont Shakespeare dira qu'elle a la face basanée et qui rêve du maître du monde. Comme elle dit, même un jour, c'est-à-dire elle est quand même, il y a une certaine lucidité en elle qui fait qu'elle sait quelque part que ce type la désire, mais en fera son repos du guerrier, point barre, quoi. C'est ça qui est très... Et en même temps, elle n'a pas le choix. Le frère est complètement fou, Ptolémée, dans la pièce de Corneille, et la sœur essaie de tenir quelque chose du pouvoir, et en même temps elle s'appuie sur l'amour de César, et elle se rêve la nouvelle femme, la nouvelle épouse de César. Et donc là, tout d'un coup, il y a une certaine ambiguïté, et en même temps une sorte de fantasme et de rêve de la reine égyptienne, de la reine étrangère, à l'égard de ce Romain tout puissant. Et c'est dans ce sens-là que j'ai monté Pompée, c'est-à-dire aussi dans la dimension coloniale qu'il y a aussi. Donc, des autochtones ont peur à la fois des Romains, les détestent, mais aussi en attendent parfois énormément. Enfin, donc, il y a un rapport colonial très, très frappant. C'est ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs, dans le théâtre de Corneille particulièrement. C'est ce mélange d'intime et de grande histoire. Enfin, de petite histoire, de grande histoire. Évidemment, ça passe par les femmes et par le désir amoureux qui est toujours un peu complexe et qui rend les choses encore plus difficiles et un peu plus compliquées ça, du point de vue politique. Elle a été l'amante quand même des plus grands de ce monde. Ce qu'on voit, c'est son rapport à César particulièrement, mais il y aura aussi donc ce rapport avec Antoine après César et la tentative qu'elle aurait faite aussi de séduire Octave.
Alors on continue nos Cléopâtres. Là, on a, je vous montre le, pour moi, qui est le chef-d'œuvre des films sur Cléopâtre. Supérieure au Cléopâtre, la Cléopâtre de Mankiewicz.
Claude Aziza.
Voilà, c'est les Légions de Cléopâtre de Vittorio Cottafavi. Alors, si vous voulez, on va entendre quelques passages. Voilà. C'est Cléopâtre. Donc, elle va trouver Auguste. Et elle va rencontrer donc les Romains vainqueurs. Alors c'est bien parce que c'est une VO. On a vraiment l'impression qu'elle parle latin, mais c'est italien.
Fermati! Chi sei? Cleopatra, regina d'Egitto, conducimi subito da Cesare Augusto. Al campo!
Octave, qui ne s'appelle pas encore Auguste. Et voilà Cléopâtre qui vient. Qui entre, j'étais sûr que tu viendrais. Et moi, j'étais sûr que tu allais dire ça. On ne s'est pas vu depuis ta visite à César, il y a quelques années. Tu n'as pas changé, même caractère, même beauté. En revanche, toi, tu es plus gentil. Tu es venu faire don de ta personne au vainqueur, tu espères sauver ta vie. C'est une vipère aux mille et une ruses. C'est le général romain qui parle. Voilà. Les dieux l'ont doté d'une beauté blanche afin de mieux masquer son cœur de vautour. À présent, va-t'en. Cléopâtre règne sur un pays très important et puis elle descend d'une dynastie prestigieuse. Ptolémée, c'est quand même le compagnon d'Alexandre. Et donc, on comprend vraisemblablement qu'elle est une importance considérable. Et puis, elle a quand même détourné d'une certaine façon César, dont elle aurait eu, pas sûr à 100%, hein, un enfant en tout cas. Dans Rome, la série télévisée, on imagine que l'enfant n'est pas de César, mais d'un des héros de la série, si vous en souvenez. Bon. Donc, on comprend que les Romains étaient à la fois fascinés et en même temps inquiets. Et très hostile à Cléopâtre. Et donc, à la fois, c'est l'incarnation d'une série de fantasmes qui attirent et qui font peur en même temps, et c'est en même temps un adversaire politique qu'il faut abattre.
Il y a un contexte tout à fait propice à ce pouvoir féminin qu'elle incarne, parce que les Égyptiennes, effectivement, ont certains droits. On a des papyrus, notamment juridiques, qui nous montrent que les femmes peuvent divorcer, par exemple, récupérer leur dot, elles peuvent être propriétaires, elles ont des esclaves qu'elles peuvent revendre, louer, par exemple. Et alors, il y a aussi un contexte religieux extrêmement important. Dans la religion égyptienne, les puissances féminines sont aussi importantes que les puissances masculines. Les deux sont nécessaires d'ailleurs à la création du monde et au maintien du monde tel qu'il a été créé. Donc il y a une réelle attente des Égyptiens, une attente d'une action menée par un pouvoir féminin. Alors par exemple, Cléopâtre reprend un certain nombre de caractéristiques qui sont celles de la déesse Isis. Dans la mythologie égyptienne, Isis est extrêmement importante, presque plus que son mari, parce que Osiris est éliminé par Seth, et c'est elle qui retrouve le corps de son mari, c'est elle qui arrive à le faire renaître en confectionnant la première momie. Elle arrive à s'unir à lui et à lui donner un héritier légitime, Horus, pour le trône d'Égypte. Donc c'est elle qui fait tout, en quelque sorte. C'est vraiment la déesse Isis hein, qui a un rôle absolument primordial. Donc il y a ce contexte très favorable aux femmes et à un pouvoir féminin, il y a une représentation idéologique aussi de ce pouvoir féminin. Donc quand Plutarque nous dit qu'elle s'habillait en Isis et qu'elle n'apparaissait plus en public que vêtue de la robe d'Isis, a priori, enfin, on ne voit pas pourquoi on ne croirait pas Plutarque, puisque ça cadre parfaitement avec ce que l'on sait de son idéologie et de sa propagande. On est dans une monarchie spectacle, elle se donne sans cesse en spectacle, c'est à la fois donc, une déesse, une reine, mais c'est un petit peu aussi l'équivalent de ce que serait une star aujourd'hui. Elle se donne en spectacle, on organise de grandes manifestations politico-religieuses, des défilés dans les rues d'Alexandrie et des cérémonies, comme la fameuse cérémonie du gymnase d'Alexandrie. Le gymnase est le lieu qui offrait en fait l'espace le plus vaste. Il y a une vaste cour, et donc c'est là, sur une véritable estrade, que la famille royale se mettait en scène. Les Romains d'ailleurs ironisent en considérant que c'est vraiment du théâtre, hein, avec beaucoup de mépris, alors qu'en fait c'est une caractéristique de la monarchie des Ptolémées. La monarchie spectacle, elle se met en scène, et elle joue pleinement ce rôle cérémoniel.
Pour sa rencontre avec Antoine, la voici sur le fleuve, dans une barque, assise sur un trône étincelant comme des flammes posées sur l'eau. La poupe du navire est de l'or battu, les voiles parfumées sont de couleur pourpre, les rames d'argent suivent le rythme des flûtes. Laissant voir ses formes, elle est mollement étendue sous un dé de drap d'or mêlé de soie.
Cléopâtre.
Jamais un coup de dé n'a été donné dans des circonstances aussi éternelles. Le hasard est aboli. Il y a ici mieux que Vénus et mieux qu'Aphrodite. Deux cupidons tenant des éventails de toutes les couleurs la rafraîchissent, pendant qu'un impalpable parfum embaume les rives.
C'est elle. Ça ne peut être qu'elle.
Depuis le premier instant où je t'ai vu, entrant dans Rome sur cette monstrueuse bête de pierre, étincelante sous le soleil, tel un joli jouet d'or, comme j'ai envié César, envié au point d'en être malade, dont ses conquêtes et ses triomphes, ni ses titres, ni ses hurlements du peuple, c'est toi que je lui enviais.
Dès le premier jour à Rome, je me suis souvenu de toi. Et je me suis demandé comment j'avais pu t'oublier.
Tu t'es souvenu de moi?
Il y a des années, quand tu étais un jeune officier de cavalerie en garnison au palais à Alexandrie, sous le commandement de ce gros Romain, le général, comment s'appelait-il?
Gabinius.
Gabinius. Je n'avais que 12 ans. Et je t'aimais.
Ridicule.
C'est vrai?
Les amants veulent toujours n'avoir encore jamais aimé.
C'est possible, tu sais.
C'est même un jeu entre amants. Qui a aimé le premier?
C'est moi.
Nous sommes au cinéma, là. Ça n'a rien à voir. Le cinéma et la littérature sont des ennemis jurés. Vous ne pouvez pas représenter Cléopâtre au cinéma. C'est une petite actrice, finalement. De rien du tout, Elizabeth Taylor. Mais enfin, elle peut vous éblouir. Vous êtes... prisonnier du spectacle, c'est-à-dire du cinéma. Mais là, vous n'entendez pas ce génie extraordinaire rythmique qui est Shakespeare. Permettez-moi de vous lire un peu de Shakespeare tout de même, vous verrez que c'est très difficile à filmer. Voyons.
Philippe Solers.
La voilà à la pêche, voyez. Ah, le fleuve et le Nil, n'est-ce pas, hein? Qu'on me donne mes lignes. Voilà. C'est Shakespeare qui fait parler Cléopâtre. Qu'on me donne mes lignes. Allons au fleuve, mes musiciens joueront à quelque distance. Je tromperai ces poissons aux écailles sombres. Mon hameçon transpercera leurs mâchoires visqueuses. Et, en les retirant de l'eau, je rêverai que chacun d'eux, c'est Antoine, et je m'écrirai « Ha ha, le voilà pris !» Bon, Imaginez Taylor là-dedans, en train de pêcher des poissons aux mâchoires visqueuses, mais non. Ah, ce jour-là, beau jour parmi tant d'autres, j'avais tellement ri qu'il a perdu patience. Mais avec d'autres rires, la nuit venue, je l'ai apaisé, et au matin, avant 9 heures, au lit, je l'ai mené ivre, et je lui ai mis ma coiffure, et je l'ai couvert de ma robe, en saignant moi. C'est elle qui parle, hein, c'est Shakespeare qui l'a fait parler, mais enfin, en saignant moi, son épée. Bon, vous avez remarqué que là, vous ne pouvez pas faire jouer à une actrice de cinéma une scène aussi belle, à savoir que c'est l'ivresse, le type est complètement mort de boisson, hein, et là, elle s'en empare en le déguisant de façon à jouer le mâle et lui la femelle. C'est pas rien, ça. Pour le cinéma, ne sait pas faire ça.
Cléopâtre vit avec Antoine, et donc ils sont tous les deux relativement âgés dans la pièce de Shakespeare. Enfin, ils ont tous les 4 ans. Bon, âgés pour l'époque, ça devait être dans les 35 ans, quoi, quelque chose comme ça. Mais il dira d'elle, à un moment donné, qu'elle a des rides, et il parle de ses cheveux grisonnants, donc c'est un couple qui est un peu vieillissant, comme ça. Mais passionné, fou d'amour l'un pour l'autre, et en même temps prêt à toutes les trahisons. C'est un couple d'une modernité fascinante. Ils ont eu des enfants ensemble, déjà. Et ils vont mourir ensemble, comme chacun sait. Donc, la petite scène que je peux vous lire, c'est une scène où Antoine a été obligé de rentrer à Rome. Elle est folle de jalousie, extraordinairement inquiète de ce qui va arriver. Elle ne sait pas très bien s'il va revenir. Il y a une sorte de fièvre dans la pièce qui est absolument exceptionnelle. Entre un messager. « Oh, d'Italie, pousse tes prolifiques nouvelles dans mes oreilles qui sont depuis longtemps stériles. » Le messager. « Madame, madame, Antoine est mort. Si tu dis cela, Manon, tu détruis ta maîtresse. Mais si c'est libre et bien portant que tu me le donnes, voici de l'or. Et voici mes veines les plus bleues à baiser. Une main que des rois ont portée à leurs lèvres et baisée tout tremblant. » Le messager, d'abord, madame, il va bien. Voici de l'or encore. Mais l'homme, prends garde. On dit souvent que les morts sont bien où ils sont. Si c'est cela, je fondrai l'or que je te donne et le verserai bouillant dans ta gorge maldisante. Le messager, madame, écoutez-moi. Eh bien, continue, je le veux. Vous plaît-il de m'écouter? J'ai grande envie de te frapper avant que tu ne parles. Pourtant, si tu dis qu'Antoine vit, qu'il va bien, qu'il est ami avec César, ou qu'il n'est pas son prisonnier, je te couvrirai d'une pluie d'or. Fais ta fortune avec moi. Mais pourtant, madame, je n'aime pas. Mais pourtant, cela gâte tout ce qui précédait d'excellent. Fie pour, mais pourtant. Mais pourtant est un geôlier qui va amener quelque horrible malfaiteur de grâce. Ami, déverse à mon oreille tout le paquet, le bon et le mauvais ensemble. Il est ami avec César, en bonne santé, dis-tu, et dis-tu, libre. Libre, madame? Non, je n'ai rien rapporté de tel. Il est lié à Octavie. Pour quel bon service? Pour le meilleur service au lit. Je pâlis, Charmian. Madame, il est marié à Octavie. La peste sur toi, la plus virulente. Elle le jette à terre. Madame, ayez patience. Que dites-vous? Elle le frappe de nouveau. Hors d'ici, affreux Manon, où je ferai rouler du pied tes yeux comme des billes. J'arracherai les cheveux de ta tête. Je te ferai fouetter de fil de fer, mijoter dans la saumure avec le vinaigre pour te mordre. Il est marié, madame. Canaille, tu as vécu trop longtemps. Elle tire son poignard, le messager. Je prends la fuite, alors que voulez-vous dire, madame? Je n'ai pas commis de faute. Bon, après, ça continue avec ça. C'est génial, non? C'est vraiment... Là, on voit une femme incroyable, folle. Elle est un peu folle, c'est beau en même temps. Elle qui est à la fois dépendante, mais en même temps qui aussi fait dépendre... Antoine d'elle, parce qu'il y a une double dépendance, Et d'ailleurs aussi même un échange des statuts, c'est-à-dire il y a un côté très viril chez elle, comme ça. Elle prend constamment des décisions, une sorte. Et lui, on insiste sur sa féminité, sur le fait qu'il soit entre les mains de cette gypsy. On dit, à deux reprises, on parle de cette gypsy, absolument, c'est magnifique, cette gitane.
Si je peux vous décrire ce tétradrachme, donc frappé à Antioche entre les années 37 et 30, on va dire, donc à la fin du règne de Cléopâtre, on la retrouve au droit d'une monnaie, c'est un buste, elle a une tenue voilée, elle a des perles, vous voyez, des bijoux.
Julien Olivier.
Au revers, on a un Marc-Antoine qui est une tête, cette fois représentée sous forme d'une tête, qui a l'apparence d'un romain, d'un général, avec les traits durs et ce menton, pareil, très avancé, ce nez pointu et droit. Et si on regarde bien le portrait de Cléopâtre, on voit qu'il a été modifié. C'est pas le portrait de la monnaie de bronze d'Alexandrie que je vous ai montré tout à l'heure, mais on voit que ses traits, la ligne de profil, le nez pointu, ce menton également, la rapproche considérablement du portrait de Marc-Antoine. Donc ici, ce qu'on montre, c'est pas tellement des portraits et de la reine et du triumvirat Marc-Antoine, c'est finalement l'association du triumvirat Marc-Antoine et des Cléopâtres. Cette association qui est poussée si loin, cette osmose pratiquement qui est poussée si loin que ces deux visages tendent à se confondre.
Ici, on a finalement représenté les deux personnes ayant le pouvoir en Orient.
Dominique Hollard, responsable des monnaies romaines, au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France.
Et de ce point de vue-là, c'est l'un des deux portraits où on retrouve Cléopâtre associé, le mot est vraiment le meilleur, associé à Marc-Antoine, sans qu'on puisse dire véritablement que l'un l'emporte sur l'autre. C'est véritablement une espèce de symbiose et qui dépasse de très loin l'aspect qu'en a retenu l'histoire et l'art, c'est-à-dire l'aspect avant tout privé, familial, du fait que contrairement à César, Marc-Antoine est devenu le mari, en quelque sorte, officiel de Cléopâtre, mais il n'est pas que ça. Il est un collègue, au sens romain du terme, c'est-à-dire le membre d'un collège. Ils travaillent ensemble, ils sont tous les deux souverains, et leur vie privée, qui aura des conséquences, qu'on verra sur d'autres monnaies après, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des enfants ensemble, n'est qu'un épiphénomène par rapport à leur poids politique et au rôle qu'ils jouent ensemble pour gouverner l'Orient romain et l'Égypte, qui sont quand même la partie la plus riche. Financièrement, économiquement, on l'oublie toujours de l'Empire. Comme c'est Octave qui a gagné en fin de compte, on a l'impression que l'Occident dominait l'Orient, mais sur le plan de la puissance économique, il n'en est rien. Les richesses principales étaient en Orient, et c'est pour ça que finalement, Cléopâtre, alliée à Marc-Antoine, pouvait à bon droit estimer qu'elle avait de grandes chances de garder son indépendance et de triompher de Rome.
Oui, si Antoine a été vaincu, c'est qu'il a été abandonné par la flotte égyptienne. Il y a quand même, c'est un grand général, mais on ne comprend pas la défaite d'Axium si on ne comprend pas non plus qu'au fond, Cléopâtre l'a trahi, quoi. Et il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait finalement, et qu'un général romain ne fait pas. Il s'est enfui. En abandonnant sa flotte, il s'est enfui avec Cléopâtre.
Pas de doute, je suis Antoine, infatigable, luxurieux, à qui aucune femme n'a jamais dit non. Toute femme est une Cléopâtre en puissance. Elle est endormie, il suffit de la réveiller. Regardez bien ce nez, et encore ce nez. La séduction absolue, c'est elle, beaucoup plus que Carmen, Phèdre ou la marquise de Merteuil. Elle vous veut, elle vous trouve, elle vous joue, elle vous retient, elle vous possède, elle vous trahit, elle vous aime, elle meurt si vous mourrez, c'est parfait.
«
n'y a pas vraiment pour elle de fidélité qui tienne. Elle pense d'abord à ses ambitions politiques, c'est-à-dire se maintenir sur le trône et assurer aussi l'avenir de son propre fils, hein, du fils qu'elle a eu de César, Césarion. Donc après l'assassinat de Jules César, effectivement, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soutienne les Césariens, donc Octave, Antoine, en lutte contre les assassins de Jules César, mais elle préfère partir immédiatement, quitter Rome, se réfugier à Alexandrie, et là, elle attend de voir finalement qui va l'emporter. Elle a une attitude de femme politique, disons. Voilà, elle voit ses intérêts. L'amour et la politique sont totalement liés. Sa liaison avec Jules César, c'est évidemment un calcul politique de sa part. Donc une fois que Jules César est mort, elle essaie de voir au mieux comment elle peut s'en sortir dans une situation très trouble, très compliquée. Alors ensuite, effectivement, elle pense un moment à sacrifier Marc-Antoine pour essayer de conserver son trône et de négocier avec Octavien, le futur empereur Auguste. Ce que veut, après la bataille d'Actium, ce que veut absolument Octavien, c'est se débarrasser d'Antoine, parce qu'il ne peut pas le traîner à Rome derrière son char, enfin c'est quand même un Romain à l'origine, donc s'il pouvait se suicider, ce serait la meilleure solution pour Octavien, et donc c'est ce qu'il fait savoir en envoyant des lettres secrètes à Cléopâtre. Cléopâtre mène une diplomatie parallèle dont elle ne parle pas à Marc-Antoine, elle est donc prête à sacrifier son amant, mais pour, encore une fois, essayer de sauver son trône et essayer de sauver son fils. Elle tente de négocier avec le vainqueur.
Peut-être qu'il comprend qu'il a été abandonné, ça, j'en sais rien. Moi, je ne peux pas faire de la psychologie comme ça, du café, du commerce. Et là, il va agir en général romain. C'est-à-dire, il va comprendre que tout est fichu et il conseillera même à Cléopâtre d'aller se rendre et lui va se suicider. Et elle va faire monter sur un panier Antoine gravement blessé, mourant, et il va mourir. Ah non, les derniers moments d'Antoine et de Cléopâtre sont vraiment à la mesure de la grandeur romaine égyptienne. Ils sont pathétiques. C'est de l'opéra. C'est au-delà même de l'opéra. Non, non. Puis il y a quand même quelque chose d'assez intéressant dans ce couple. C'est ce qu'on a appelé à Rome des débauches, parce qu'il faut pas oublier non plus que c'est un monde à part. On peut pas le juger selon nos critères actuels, quoi. Et on parle de débauches d'Antoine. En fait, ils ont mené pendant quelque temps ce qu'ils appellent la vie des amants inimitables, mais on ne sait jamais, on peut pas faire la différence entre ce qui est à nos yeux noces, orgies. C'est un bien grand mot, et en même temps, ce qui est fête religieuse, cérémonie religieuse.
Eh bien, il faut reprendre le titre de la société qu'ils avaient formée, avec une société de débauche, il faut bien dire les choses, enfin de liberté absolue, hein, très étrange, très étrange. Pour eux seuls, d'une certaine façon. Non, ils l'avaient nommée la vie inimitable, et ça... Je crois que ça va très loin. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie inimitable? Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a une vie intéressante, tellement singulière, qu'elle soit inimitable? C'est ça le problème. Donc, il faut avoir à ce moment-là une énergie considérable pour n'être pas populaire. Il faut savoir disparaître, il faut savoir être caché en pleine évidence, par exemple. Très, très difficile. La vie inimitable. Je suggère ça comme programme politique.
Égyptienne, devant une Cléopâtre mourant.
Comme elle va se faire mordre le sein.
Vincent Rondeau.
Poitrine dénudée, alors il y a une ceinture qui retient encore les vêtements, le plissé des vêtements. Elle a déjà la tête en arrière. On peut penser qu'elle vient de se faire piquer d'ailleurs, puisqu'elle a déjà les yeux révulsés, la tête en arrière. Elle est accompagnée de deux de ses servantes qui vont mourir avec elle. Elle est donc sur un lit parce que avec un coussin là, avec les grosses passementeries. C'est peut-être ça l'évocation du caractère oriental de la reine, c'est ces couches fastueuses. Peut-être que là, il y a peut-être à travers ce lit un rappel de cela. Et aussi dans les broderies du vêtement, aussi bien de la ceinture que du vêtement, on pourrait imaginer que c'est voulu comme une référence à des vêtements chamarrés.
Viens donc, être de mort, d'un seul coup de ta dent aiguë, tranche le nœud inextricable de la vie, pauvre bête, tout en venin, mets-toi en colère, dépêche-toi, oh, si tu pouvais parler et que je puisse t'entendre traiter d'âne le grand César qui n'aura rien prévu.
Laisse-moi voir maintenant si les figues sont toujours aussi bonnes. Très âpre, mais qui passe très vite. Je me sens étrangement éveillée, comme si vivre n'était pas autre chose qu'un long rêve, le rêve d'une autre femme qui enfin s'achève.
Monologue de Listella, au moment où elle plonge sa main dans la corbeille de figues, et puis là on voit une forme noire qui bouge à l'intérieur des figues, elle plonge sa main et il y a la caméra qui...
Nasser Martin Gousset.
Il y a un close-up qui avance tout doucement sur son visage, et on voit pas la morsure, on voit juste le visage qui réagit à la morsure, et les yeux petit à petit de Taylor qui partent comme ça, et qui aussi se projette dans... Mais ça, c'est à mon avis, c'est aussi peut-être le scénario de Mankiewicz. Taylor qui se projette aussi dans... Enfin, Cléopâtre, dans le temps, dans la durée, puisqu'elle dit « wait », elle dit « attends-moi ». Elle dit « attends-moi », donc c'est comme si elle lui demandait de l'attendre pour continuer l'histoire, enfin pour continuer au mythe d'opérer, quoi. Jusque ça c'est assez fascinant. Alors évidemment, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la réalité, parce que oui, il y a beaucoup de versions, et d'ailleurs il paraît que la version du serpent c'est pas la bonne. Mais moi, vous savez, il y a des moments où je crois que pour créer de la fiction, on s'en fiche un peu finalement. Ce qui nous intéresse, c'est de piocher. Et voilà, et de composer.
Alors forcément, dans un premier temps, on a tendance à émettre évidemment des doutes, parce que ça paraît totalement romanesque, cette histoire de serpent. Donc elle se suicide, elle se fait apporter un serpent, et elle se suicide en se faisant mordre par un serpent. Mais là aussi, c'est comme pour la rencontre, la première rencontre entre César et Cléopâtre.
Christian-Georges Schwenzel.
Si vraiment on examine toutes les hypothèses qui ont pu être avancées, on se dit que... aussi invraisemblable qu'elle puisse paraître, c'est la seule qui tienne un peu la route. Enfin, il n'y a pas d'autre possibilité. On a un moment évoqué l'hypothèse de l'assassinat. Enfin, Octavien l'aurait tué. C'est totalement invraisemblable. Parce que pourquoi inventer cette histoire? S'il a envie de la tuer, il la tue. Il ne peut pas tuer Antoine, c'est plus gênant. Il vaut mieux provoquer le suicide d'Antoine. Il a fait tuer Césarion, qui passe pourtant pour le fils de Jules César, et il le fait tuer ouvertement. Il a besoin, en fait, de Cléopâtre. Il veut Cléopâtre à Rome. Il veut la traîner derrière son char. Ce sera le clou du spectacle, de son triomphe. Après toute la propagande qui s'est déchaînée contre cette prostituée reine, il veut l'exhiber, et les Romains attendent ça. Ils veulent insulter Cléopâtre dans les rues de Rome et ensuite, libre à lui de la mettre en résidence surveillée ou de l'égorger. Enfin, personne n'aurait plaint Cléopâtre. Donc la thèse du meurtre me paraît totalement invraisemblable. Alors, reste le suicide. Elle veut échapper à cette humiliation. Elle veut sortir dignement, enfin, de sa carrière de reine. Et alors, elle a tenté de se suicider une première fois. Quand elle a été capturée, elle s'est emparée d'un poignard, elle a essayé de se poignarder, on lui a arraché son poignard, bon, et on la place ensuite en résidence surveillée dans un appartement du palais, qui a forcément été fouillé, puisque on part du principe que Octavien veut la garder en vie. Donc on ne lui laisse évidemment ni aiguille, ni couteau, elle n'a pas d'arme pour se suicider. Il faut donc trouver une arme extérieure. Alors on sait, d'après Plutarque, qu'elle avait préparé son suicide avec son médecin Olympos. Elle avait fait des essais de poison sur des condamnés à mort. Elle avait fait aussi des essais de morsures de serpents. Enfin, ces condamnés à mort avaient été mordus par différents serpents et elle s'était rendue compte, et donc ça c'est attesté par les spécialistes des serpents et les médecins, enfin, apparemment la morsure du cobra ne fait pas très mal. Enfin, le poison qu'on s'injecte, ça fait très mal, on souffre, on meurt dans d'horribles douleurs. Il y a certains serpents aussi qui, paraît-il, dont la morsure fait très très mal, mais le cobra, non, c'est un effet narcotique, semble-t-il, on s'endort. Et donc ça, elle pouvait effectivement tout à fait le savoir. Ça fait partie des recherches menées aussi à Alexandrie par des médecins, des savants du musée d'Alexandrie. On ne trouve aucune arme. Ce qu'on a simplement retrouvé sous la fenêtre de sa chambre, c'est des œufs de serpent. Voilà. Donc le serpent aurait très bien pu sortir par la fenêtre. C'est l'avantage du serpent, c'est que le serpent a pu sortir. Et le serpent peut mordre trois fois, le cobra peut bien mordre trois fois, puisque ces deux suivantes aussi ont été mordues par le serpent. Alors le problème, c'est comment se faire apporter le serpent. La thèse finalement retenue par les enquêteurs romains, c'est donc la thèse du suicide par le serpent, qu'on lui a apporté dans un panier de figues. Et alors effectivement, on a retrouvé un panier de figues à côté d'elle. Elle venait de se faire apporter par un paysan, donc un panier de figues. Elle avait dû prévoir ce scénario à l'avance pour se suicider. On a pu lui apporter un cobra au fond d'un panier. Et donc, au fond du panier, enfin, on a un serpent qui se confond même peut-être avec le fond du panier. Les gardes romains qui fouillent en fait le panier de figues ne cherchent pas un serpent, parce qu'ils cherchent quoi ? Un couteau, une aiguille qu'ils ne trouvent pas. Ils ne cherchent pas un serpent qui est sans doute en état de catalepsie, enfin, qui peut être endormi au fond de ce panier. Alors ensuite, donc, Cléopâtre a dû ranimer le serpent, mais ça aussi, enfin, elle avait dû préparer, enfin, elle aurait pu préparer cela à l'avance. On ranime le serpent. Et le serpent peut effectivement mordre d'abord Cléopâtre, puis chacune de ses deux suivantes, avant de prendre la fuite par la fenêtre. Alors c'est donc la thèse qui finalement a été retenue par Octavien lui-même, qui finalement, lors de son triomphe, a fait défiler une statue de Cléopâtre avec un serpent enroulé autour du bras.
Cléopâtre, la déesse mortelle du Nil.
Cléopâtre rocked the Nile and waited for Anthony all the while. It's the big gal, that's for sure. Men 5,000 she would lure.
Cleopatra was the siren of the lot. And what she wanted.
Avec Claude Aziza, historien, auteur de Le Péplum, Un mauvais genre, chez Klingsic. Julien Olivier et Dominique Ollard, responsables des monnaies grecques et romaines au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale de France. Brigitte Jacques Vageman, metteur en scène. Nasser Martin Gousset, danseur et chorégraphe, auteur du spectacle Péplum. Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Christian-Georges Schwenzel, historien, auteur de Cléopâtre, la déesse reine, chez Payot. Et Philippe Solers, écrivain. Merci à William Kells. Extrait de film tiré du Cléopâtre de Joseph Mankiewicz.
Cléo was a stubborn gal. No, she
She even rocked the pyramid.
Prise de son, Loïc Duros, Yann Frécy et Patrick Muller. Mixage, Alain Joubert. Un documentaire réalisé par Doria Zénine et signé Martin Kénéen. C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Commentaires, réécoutez podcast sur franceculture.fr. La semaine prochaine, samedi et dimanche à 17h, Une vie, une œuvre vous plongera dans les brumes gothiques qui nimbent l'existence de Bram Stoker et de Mary Shelley, le père de Dracula et la mère de Frankenstein. Mais pour l'heure, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec le journal de la rédaction.